On découvre un cadavre dans la forêt en Caroline du Nord. Comment les détectives pourront-ils trouver le meurtrier sans mobile apparent ni suspect ? En Californie, on procède à l'arrestation d'une femme. Les détectives craignent le pire lorsqu'ils découvrent que cette arrestation semble avoir été un traquenard. Une femme du Montana meurt au cours d'un tragique accident impliquant des chevaux. Les médecins légistes découvrent cependant des blessures suspectes sur son corps. Quand il y a peu d'indices, il faut trouver de nouvelles façons de faire avancer une enquête. Grâce à la criminalistique, les détectives disposent de nouveaux moyens pour mettre à jour les mobiles d'un crime passionnel ou relié à l'argent. La majeure partie de la Caroline du Nord est encore sauvage. Ici, on est loin des problèmes de la vie urbaine. Cette contrée paisible deviendra bientôt le théâtre d'un drame. Le 7 janvier 1994, un arpenteur géomètre du ministère des Transports établissait la topographie d'un terrain près d'une route rurale lorsqu'il fit une découverte plutôt macabre. Des détectives du bureau du shérif de Watauga County furent immédiatement dépêchés sur la scène. Les broussailles dissimulaient partiellement le corps. La température fraîche du mois de janvier avait contribué à le conserver, mais de toute évidence, il se trouvait là depuis un bon moment. La victime était un homme dans la trentaine ou la quarantaine. Il avait des blessures par balles sur la tempe gauche et le côté droit du cou. Le corps était entièrement nu à l'exception d'une montre et d'une bague à l'un des doigts de sa main gauche. Il n'y avait aucun indice apparent sur l'identité de la victime ou celle du meurtrier. Les experts passèrent la scène au peigne fin. À moins d'un mètre du corps, ils remarquèrent un morceau de ruban adhésif noir. L'indice fut recueilli et envoyé au laboratoire pour analyse. L'enquêteur en chef, Paula Townsend, était chargée de cette affaire. Elle entra la description de la victime dans la base de données du service de police. Elle espérait trouver des informations sur son identité.
Nous savions qu'aucun individu n'avait été porté disparu dans notre comté. Nous devions comparer les dossiers des personnes disparues dans les autres localités pour déterminer son identité.
Les réponses ne tardèrent pas à arriver. Plus tard dans la soirée, les détectives reçurent un appel de la police du comté voisin de Salisbury. Un homme avait été porté disparu quelques semaines plus tôt. Il correspondait à la description de l'homme découvert au bord de la route. Son nom était Victor Gunnarsson. La police de Salisbury accepta de leur faire parvenir le dossier de l'homme en question. L'autopsie révéla que la mort avait été causée par les deux projectiles qu'il avait reçus à la tête. Il y avait encore des traces de pommes de terre non digérées dans son estomac, ce qui signifiait qu'il avait sans doute mangé quelques heures avant le meurtre. Paula Townsend consulta le dossier de Gunnarsson. Elle espérait y trouver des informations qui lui permettraient de confirmer l'identité de la victime, mais il n'y avait rien de concluant. Townsend découvrit cependant que Gunnarsson avait un lourd passé judiciaire.
Victor Gunnarsson était de nationalité suédoise. Il avait demandé l'asile politique aux États-Unis suite à une accusation. Il avait été soupçonné de l'assassinat du premier ministre Olof Palme en Suède quelques années plus tôt.
Gunnarsson était le suspect numéro un dans cette affaire, mais il avait dû être libéré faute de témoins. Il semblait bien que les détectives de Watauga étaient confrontés à une situation analogue. Ils entrèrent en contact avec les agents d'Interpol où les empreintes digitales de Gunnarsson étaient fichées. Une semaine après la découverte du corps, la copie des empreintes arriva enfin au service de police. Elles étaient identiques. L'étape suivante consistait à déterminer qui avait pu en vouloir à la vie de Victor Gunnarsson. Son lourd passé ne pouvait être ignoré.
Nous savions qu'il avait fait face à des accusations en Suède et nous ignorions si tout cela avait un lien ou non avec la situation actuelle. Il était possible que cet homicide ait été relié à un mobile politique.
En janvier, après avoir entendu parler de cette affaire dans les médias, une femme du nom de Kay Whedon entra en contact avec la police pour faire une déclaration. Elle avait rencontré Gunnarsson lors de la fête de l'Action de grâce et était sortie avec lui à quelques reprises la semaine suivante. Après leur dernier rendez-vous amoureux le 3 décembre, elle n'avait plus eu de nouvelles de lui. Ce soir-là, il l'avait invitée au restaurant. Whedon confirma que Gunnarsson avait alors mangé une pomme de terre au four. L'autopsie avait révélé qu'il s'agissait bien de son dernier repas. Après le restaurant, elle l'avait invité à la raccompagner chez elle, mais ils ne furent pas seuls très longtemps. L'ex-petite amie de Whedon, Elsie Underwood, ainsi qu'une amie à lui du nom de Shelley Thompson, étaient venues faire un tour à la maison aux environs de 23 heures. Ce n'était pas une visite amicale. Kay Whedon décrivit à la police la relation houleuse qu'elle avait avec Underwood depuis 2 ans. Elle était maintenant séparée, mais Underwood ne l'avait jamais acceptée.
Il l'a épiée pendant un certain temps. Il était jaloux d'une manière obsessive. À plusieurs reprises, il l'a affrontée quand elle se trouvait avec un autre homme, ce qui a provoqué quelques incidents. Le fait qu'il se soit rendu chez elle le soir du 3 décembre, alors que Victor Gunnarsson se trouvait chez elle, en faisait un suspect.
L'hypothèse selon laquelle Gunnarsson avait peut-être été victime d'un assassinat politique était de moins en moins plausible. La jalousie dévorante de Elsie Underwood en faisait un suspect bien plus vraisemblable. Quelque chose cependant risquait de compromettre l'enquête. Underwood était agent de police. Pointer du doigt un agent de police est toujours délicat. Si les enquêteurs se trompent, la carrière et la vie d'un collègue risquent d'être détruites à jamais. En revanche, si leurs soupçons sont fondés, leur adversaire est de taille, car il sait comment éliminer les indices. Les détectives devaient être plus rapides que lui. Avant de l'affronter directement, ils commencèrent par interroger son entourage, notamment Shelley Thompson, qui se trouvait avec lui lors de la visite chez Whedon. Underwood avait repéré la voiture du nouvel ami de Whedon et avait noté le numéro de sa plaque d'immatriculation. Il s'était expliqué en disant qu'il rendait service à un ami. De retour chez lui, il avait téléphoné au poste de police et demandé à un collègue de lui donner le nom du propriétaire. Interrogé par les détectives, un policier confirma avoir effectivement donné le nom de Gunnarsson et son adresse au cours de cette soirée. Grâce à ces déclarations, la police put obtenir un mandat de perquisition de la maison d'Underwood. Pendant la perquisition, ils demandèrent à Underwood ce qu'il savait du meurtre de Victor Gunnarsson. Non seulement nia-t-il être au courant de l'homicide, mais il déclara n'avoir jamais entendu ce nom. De toute évidence, il mentait, même si cela ne prouvait pas qu'il était l'auteur du meurtre. Les détectives devraient trouver des preuves solides pour démontrer son implication. À première vue, il n'y avait aucun indice chez Underwood. S'il avait tué le Suédois, il était trop intelligent pour laisser traîner l'arme du crime. La seule façon de trouver quelque chose serait de fouiller à des endroits peu communs. Les experts remarquèrent quelque chose de familier derrière la sécheuse. Un morceau de ruban adhésif noir, semblable à celui qui avait été recueilli près du corps de Victor Gunnarsson. Le policier méticuleux avait peut-être sous-estimé les capacités de ses collègues. À Watauga County, en Caroline du Nord, des policiers tentaient de résoudre le meurtre de Victor Gunnarsson en fouillant la résidence du suspect numéro 1, l'agent de police Elsie Underwood. Ils avaient découvert un indice qui pouvait se révéler important, un morceau de ruban adhésif noir. L'indice en question fut envoyé au laboratoire judiciaire du service d'enquête de la Caroline du Nord. Les techniciens le comparèrent à celui qui avait été recueilli sur la scène du crime. L'expert Troy Hamlin évalua les caractéristiques physiques des deux morceaux.
Nous en avons comparé la largeur, l'épaisseur et la composition. Certaines de ces caractéristiques étaient organiques, d'autres inorganiques. Elles étaient toutes identiques. Par conséquent, il était possible que les deux échantillons proviennent du même rouleau de ruban adhésif.
Cette découverte était très importante, mais la tâche était loin d'être terminée. Les détectives devaient trouver un lien plus tangible entre le suspect et la victime. Ils obtinrent un mandat de perquisition de sa voiture. Malheureusement, tout comme la maison d'Underwood, sa voiture était impeccable. Il n'y avait pas une seule tache, pas même dans le coffre arrière. Les experts refusèrent cependant de se fier aux apparences. Ils retirèrent la moquette du coffre et l'envoyèrent au laboratoire pour en faire une analyse plus poussée. Le tapis avait été nettoyé depuis peu, ce qui avait eu pour effet d'éliminer une grande partie des micro-indices. À l'aide de rubans adhésifs, l'expert Troy Hamlin examina chaque centimètre carré du tissu dans l'espoir de trouver quelque chose. Toujours aucun indice. Puis, un minuscule bout de cheveux attira son attention. En examinant plus attentivement cet endroit de la moquette, il recueillit 17 autres bouts de cheveux entremêlés au tissage. Ces cheveux furent examinés, puis comparés à ceux de la victime. Grâce à une analyse au stéréoscope, on put établir qu'ils étaient parfaitement identiques. Les détectives avaient enfin la preuve qu'ils attendaient.
J'ai reçu un appel de l'analyste du laboratoire m'annonçant qu'il avait trouvé des cheveux dans le coffre de la voiture d'Underwood et que ceux-ci étaient identiques à ceux de Victor Gunnarsson. J'étais folle de joie.
Si toute l'enquête ne devait reposer que sur ce seul indice, il faudrait lui donner le plus de poids possible. Les experts constatèrent qu'ils disposaient d'une quantité suffisante pour en extraire l'ADN. L'analyse révéla que l'ADN des cheveux découverts dans le coffre était identique à celui du sang de la victime. Underwood était sans contredit impliqué dans le meurtre de Gunnarsson. Les policiers avaient maintenant toutes les cartes en main. Un mandat d'arrestation fut émis. Le jeu du chat et de la souris auquel Underwood s'était livré venait de prendre fin. La police croit qu'Underwood, en proie à une violente jalousie en voyant son ex-petite amie avec un autre homme, s'est rendu chez Gunnarsson et l'a enlevé. Après l'avoir ligoté et enfermé dans le coffre de sa voiture, il a roulé pendant plus d'une heure avant de s'arrêter. Il lui a tiré deux balles dans la tête, puis a procédé au camouflage de son meurtre. En juillet 1997, Elsie Underwood fut trouvée coupable du meurtre au premier degré de Victor Gunnarsson. Il fut condamné à la prison à vie. La jalousie aurait fait faire n'importe quoi à ce policier. D'autres meurtriers ont recours à la manipulation pour satisfaire leurs moindres désirs. À une heure au nord de Los Angeles, par l'autoroute qui serpente le long de la côte du Pacifique, on atteint la ville de Ventura, une petite localité aux plages merveilleuses, au port prospère et où tout le monde se connaît. Le 6 mai 1996, Michael Daly téléphona au service de police de Ventura County pour signaler la disparition de sa femme, Sherry. La dernière fois qu'il l'avait vue, elle allait reconduire leurs deux fils à l'école très tôt dans la matinée. Lorsqu'était venue l'heure de reprendre les enfants à l'école, 3 heures plus tard, elle ne s'y était jamais présentée. Cette femme de 35 ans était une mère aimante et responsable. Elle n'avait jamais oublié ses enfants ainsi. Michael déclara que sa femme avait prévu faire des courses dans la journée, mais personne n'avait eu de ses nouvelles. Le détective Sean Conroy du service de police de Ventura County fut assigné à cette enquête. Il savait par expérience que Sherry avait peut-être disparu de son plein gré.
Lorsqu'un individu disparaît, en particulier lorsqu'il s'agit d'un adulte, notre hypothèse de base est que cette personne l'a fait intentionnellement.
Mais des membres de la famille de Sherry refusèrent de croire qu'elle ait pu laisser ses enfants. Ils ratissèrent les rues de la ville jusqu'à ce qu'ils retrouvent la mini-fourgonnette de la jeune femme garée dans le stationnement d'un magasin. Ils appelèrent la police. À l'intérieur du véhicule se trouvait son trousseau de clés, son sac à main, ainsi qu'un cadeau qu'elle venait d'acheter pour la fête des mères. Il n'y avait aucun autre indice ni trace de lutte. Le lendemain, les détectives se rencontrèrent pour leur réunion hebdomadaire. L'un d'entre eux mentionna qu'un citoyen avait appelé la veille pour signaler une arrestation pour le moins étrange. Cela s'était produit sur le même terrain de stationnement que celui où la camionnette de Sherry Daly avait été retrouvée. Les détectives se rendirent chez ce témoin pour l'interroger. Il avait aperçu une femme, dont la description correspondait à Sherry, se faire passer des menottes au poignet par une femme blonde, en tailleur beige, qui semblait être un agent de police. Cette dernière avait ensuite forcé la femme à monter à bord d'une voiture verte et avait démarré. Le témoin avait tenté de noter le numéro d'immatriculation, mais il semblait avoir été dissimulé. Ces informations étaient troublantes. Mais cet espoir ne tarderait pas à s'écrouler. Les agents de police de Ventura et des comtés voisins n'avaient aucun dossier concernant cette arrestation. Cela ressemblait de plus en plus à un enlèvement. Et comme la ravisseuse ne s'était pas manifestée, il était possible qu'il y ait eu homicide. Les détectives décidèrent de retourner à nouveau chez Michael Daly. Ils le trouvèrent en compagnie d'une autre femme du nom de Diana Hahn. Daly et Hahn furent conduits au poste pour subir un interrogatoire en règle. C'est le détective Skip Young qui questionnait Michael Daly.
Au début, Daly ne donnait pas l'image d'un mari inquiet, ce qui aurait été normal. Au contraire, il était neutre dans ses réponses. Il a été incapable de fournir une explication au sujet de la disparition de sa femme.
Daly déclara qu'au moment où sa femme avait disparu, il se trouvait au supermarché où il travaillait. Son alibi tenait la route. Dans l'autre salle, Diana Hahn déclara qu'elle ignorait tout des allées et venues de Sherry. Quelque chose dans son visage éveilla cependant les soupçons du détective qui l'interrogeait. Il avait des éraflures récentes sous ses cheveux. Lorsqu'il lui demanda comment elle s'était blessée, elle déclara qu'elle était passée par-dessus le guidon de son vélo lors d'une chute. Le détective ne crut pas une seconde à son explication.
Après quelques années d'expérience, les policiers savent tous qu'il est impossible de passer par-dessus le guidon d'un vélo sans se protéger avec les mains. C'est un réflexe. De plus, elle n'avait aucune blessure au genou. Nous savions donc qu'elle mentait.
Les blessures de Diana Hahn furent photographiées. Sur les photos, les enquêteurs remarquèrent également des traces de blessures sur ses mains et ses bras, comme si quelqu'un l'avait agrippée avec force. Les policiers la soupçonnaient d'être impliquée dans l'enlèvement. Elle ne possédait pas de voiture de couleur verte, mais pouvait en avoir loué une. Les détectives se rendirent dans des agences de location de voitures de la région. Une femme avait bien loué une voiture la veille de la disparition de Sherry et l'avait rapportée le lendemain. Le compteur affichait 200 km. La personne qui avait loué le véhicule était nulle autre que Diana Hahn. Elle avait payé la transaction avec sa carte de crédit et le commis avait inscrit son nom sur le formulaire de location. Le détective Conroy espérait qu'un examen de la voiture leur permettrait d'en savoir un peu plus.
L'enlèvement s'était produit une semaine plus tôt, mais l'agence n'avait pas reloué le véhicule depuis. Quand on a demandé au responsable pourquoi, on nous a répondu que c'était parce que le rétroviseur avait été arraché.
La voiture était verte, exactement comme l'avait décrite le témoin qui avait téléphoné au poste de police. On la remorqua jusqu'au laboratoire judiciaire de Ventura, où elle fut examinée attentivement. À l'intérieur, de nombreuses taches ressemblaient à s'y méprendre à du sang. Pour s'en assurer, on recueillit les échantillons à l'aide de coton-tiges humides. Ces échantillons furent ensuite placés dans une éprouvette contenant une substance chimique qui entre en réaction au contact du sang et le fait virer au bleu-vert. Grâce à cette technique, l'expert Harry Scott de la police de Ventura obtint des résultats concluants.
Nous avons découvert qu'il y avait du sang sur la poignée intérieure de l'auto du côté du passager. Certaines taches avaient été essuyées au plafond et il y avait également des traces de sang dans le coffre arrière.
Des analyses plus poussées confirmèrent que le sang était humain. Mais les détectives se retrouvèrent bientôt dans une impasse. Ils étaient convaincus qu'il s'agissait du sang de Sherry, mais ne disposaient pas d'échantillons témoins pour effectuer une comparaison. Heureusement, la science n'est pas à court de ressources. Les parents de Sherry acceptèrent de fournir du sang afin que l'on puisse en extraire le code génétique, puis comparer ces données au sang qui avait été découvert dans la voiture. À la vue des résultats, aucune ambiguïté n'était possible. Le sang dans l'auto appartenait bien à Sherry. Cette découverte confirmait malheureusement les craintes des policiers. Il était peu probable qu'ils parviennent à la retrouver vivante. Diana Hahn était le suspect numéro un. Malheureusement, en l'absence du corps de la victime, prouver qu'il y avait eu homicide serait difficile. Le 1er juin, près d'un mois après l'enlèvement, les membres d'une équipe de recherche remarquèrent une odeur de décomposition dans un endroit isolé en périphérie de Ventura. Après des recherches intensives, ils découvrirent un crâne humain le long de la voie d'accotement au bas du talus. Ils pensaient bien avoir découvert Sherry Daly. Les policiers de Ventura, en Californie, effectuaient des recherches pour retrouver Sherry Daly, une jeune mère de deux enfants qui avait subitement disparu. Près d'un mois après que son mari eut signalé sa disparition, les détectives croyaient l'avoir enfin retrouvée. L'équipe de recherche fouilla minutieusement les lieux. Près de l'endroit où le crâne et les ossements avaient été découverts, il y avait également des bijoux. Tout fut soigneusement recueilli pour analyse ultérieure. Les détectives découvrirent également des vêtements qui correspondaient à ceux que Sherry portait la dernière fois qu'elle avait été vue en vie. Leur état était très révélateur.
En examinant le chemisier et le soutien-gorge de la victime, ainsi que ses ossements, nous avons pu établir qu'elle avait reçu plusieurs coups de couteau aux côtes.
L'analyse des dents confirma qu'il s'agissait bien du corps de Sherry Daly. La personne qui l'avait tué l'avait fait avec violence. En plus des nombreux coups de couteau aux côtes, son cou avait été tranché à l'aide d'un objet acéré. Le médecin légiste conclut qu'après une longue et féroce lutte, la victime avait été presque décapitée. Le rapport d'autopsie concordait avec les taches de sang trouvées dans la voiture louée par Diana Hahn. Cette lutte expliquait également les blessures de la suspecte au front et au bras observées lors de l'interrogatoire. Diana Hahn avait vraisemblablement tué Sherry Daly, mais sans doute n'avait-elle pas planifié ce meurtre seule. Le détective Skip Young retraça les appels téléphoniques de la suspecte le jour de l'homicide. Tout portait à croire qu'elle et son amant avaient comploté ce meurtre.
Le matin de l'enlèvement, il y a eu au moins trois conversations téléphoniques entre Diana Hahn et Michael Daly.
Un de ces appels provenait d'une cabine téléphonique située à quelques minutes seulement du ravin où le corps avait été trouvé. Hahn semblait tenir Daly au courant de ses faits et gestes. Il était maintenant temps de fouiller un peu le passé du mari de la victime. Selon des témoins, Michael Daly consommait de la drogue et s'affichait avec sa maîtresse, Diana Hahn, depuis maintenant quelques années.
Nous avons appris de la part d'amis très proches et de voisins que Sherry avait donné un ultimatum à Michael. Elle lui avait demandé de cesser de consommer de la drogue et de laisser sa maîtresse. Il semble qu'elle ait même demandé l'avis d'un avocat.
Une fois Sherry éliminée, Michael Daly ne serait plus contraint de se plier à ses ultimatums. Il pourrait poursuivre sa liaison et n'aurait pas à payer de pension alimentaire ni à partager ses enfants avec elle. Il avait donc tout à gagner de la disparition de sa femme. Les preuves accumulées contre Diana Hahn et Michael Daly étaient importantes, mais pour obtenir gain de cause, il fallait prouver hors de tout doute leur implication dans ce meurtre. Pour établir leur culpabilité, ils devaient prouver que Hahn s'était effectivement déguisé en agent de police. Une fois encore, la population de Ventura vint à l'aide des détectives. Une vendeuse qui suivait l'affaire dans les médias déclara à la police qu'elle se rappelait avoir vendu une perruque blonde à Diana Hahn peu de temps avant le meurtre. Elle avait alors remarqué la photo d'un homme et de deux enfants dans le sac à main de la jeune femme. Elle en avait conclu qu'il s'agissait de ses enfants. Les policiers lui montrèrent une photo de Michael Daly et de ses deux enfants. Elle les reconnut immédiatement. Mais Diana Hahn n'avait jamais eu d'enfants. Était-il possible que Daly ait manipulé Diana en lui faisant miroiter un futur rempli de promesses ? Les détectives poursuivaient leur enquête. Ils examinèrent les états de compte de Hahn et les chèques qu'elle avait émis. L'un d'eux avait été fait à l'ordre d'un grand magasin quelques jours seulement avant l'enlèvement. La liste des effets achetés incluait un morceau de carton, des sacs à ordures, un tailleur deux pièces de couleur beige ainsi qu'une hachette. Les policiers obtinrent un mandat de perquisition de la maison de Hahn. Il n'y avait aucune trace de la hachette ni du tailleur, mais ils découvrirent un morceau de carton. Le code de l'étiquette sur le morceau de carton était le même que celui qui se trouvait sur le reçu de la transaction. Mais pourquoi Diana Hahn avait-elle acheté ce morceau de carton ? Un examen plus attentif apporterait peut-être des réponses. Les experts remarquèrent que la suspecte avait découpé un morceau aux dimensions exactes d'une plaque d'immatriculation. C'était sans doute la raison pour laquelle le témoin n'était pas parvenu à en distinguer le numéro. Il était plus que probable que Raun n'ait pas orchestré ce meurtre seul. Michael Daly avait sans doute mis le plan au point avec elle depuis quelque temps. L'attrait de la nouvelle vie que lui proposait Michael avait sans doute motivé Diana à éliminer la personne qui lui barrait la route. Les policiers croient que Diana Hahn s'est déguisée et s'est approchée de Sherry au moment où cette dernière quittait le terrain de stationnement du magasin. Prétextant être agent de police, elle lui a passé des menottes au poignet et l'a fait monter à bord de sa voiture. Il est possible que cette dernière ait rapidement compris qu'il s'agissait d'un traquenard.
Nous croyons que peu de temps après avoir enlevé Sherry à bord du véhicule vert, cette dernière a reconnu Diana Hahn malgré son déguisement. À en juger par les dommages causés à l'intérieur de la voiture et en particulier au rétroviseur qui a été arraché, Sherry s'est débattue.
Malheureusement, Sherry n'est pas parvenue à dominer son assaillante. Hahn l'a conduite dans un endroit isolé et l'a poignardée à 17 reprises avant de jeter son corps dans le ravin. Diana Hahn fut arrêtée pour le meurtre de Sherry Daly le 1er août 1996. En prison, elle finit par admettre que Michael Daly avait orchestré le meurtre. Ce dernier fut arrêté au mois de novembre suivant. L'enquête était enfin close, mais la petite ville de Ventura serait marquée à jamais par la fin tragique de cette jeune mère de famille.
Tout ce qu'elle souhaitait, c'était d'avoir une famille, un mari, élever ses enfants. Je pense souvent à cette enquête. Je pense à ce que Sherry a dû penser lorsqu'elle a compris que c'était Diana Hahn qui était derrière le volant et qu'elle aurait à se battre pour sa vie.
Diana Hahn fut jugée coupable d'enlèvement et de meurtre au premier degré. Elle fut condamnée à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Le procès de Michael Daly eut lieu 6 mois plus tard. Il fut également trouvé coupable du meurtre de sa femme et condamné à la prison à vie. Diana Hahn et Michael Daly étaient prêts à tout pour vivre ensemble, même détruire une famille. Pour de l'argent, les liens familiaux sont parfois bien fragiles. Au cœur des Rocheuses, dans l'ouest du Montana, se trouve Mineral County, une petite ville aux accents du Far West. Même à cet endroit, nul n'est à l'abri de la tragédie. Le 28 novembre 1995, Nanette, l'épouse de Chris Hansen, sortit de chez elle pour nourrir les chevaux. Elle ne devait jamais rentrer à la maison. Hansen trouva sa femme de 34 ans gisant dans la boue. Son visage était livide. Il téléphona immédiatement au service d'urgence en déclarant que sa femme avait peut-être été frappée par les sabots d'un de leurs chevaux. Si elle n'était pas déjà morte, elle était mourante. La standardiste dépêcha immédiatement une ambulance. Lorsque les ambulanciers arrivèrent sur les lieux, Nanette ne respirait plus. Son pouls s'était arrêté. Chris et son fils Scott regardaient, impuissants, les ambulanciers tenter de réanimer Nanette. Au début, il semblait y avoir un mince espoir. La victime prit une inspiration d'elle-même. Hélas, ce fut son dernier souffle. Les ambulanciers constatèrent bientôt son décès. Ils avisèrent le bureau du shérif puisque ce dernier assumait également la fonction de coroner dans cette petite ville. Chris Hansen déclara aux enquêteurs qu'il avait retrouvé Nanette gisant dans la boue près du pâturage. Il avait téléphoné au service d'urgence, puis appelé son fils, Scott Abbey, mais il était déjà trop tard. Chris Hansen souffrait de sclérose en plaques et avait des troubles de vision. S'il avait vu sa femme plus tôt, il aurait peut-être pu la sauver. La nouvelle de la mort de Nanette fit rapidement le tour du village et suscita tout de suite des soupçons. En l'espace de quelques heures seulement, des amis et voisins de la victime téléphonèrent au bureau du shérif. Ils étaient tous convaincus qu'il ne s'agissait pas d'un accident. La police de Mineral County poursuivait l'enquête à propos de la mort de Nanette Hansen, 34 ans, tuée accidentellement par l'un de ses chevaux. Les habitants du village n'y croyaient pas une seconde. Des amis de la victime pressèrent la police de pousser plus loin son enquête. L'accident leur semblait tout simplement impossible. Nanette s'occupait des chevaux depuis plusieurs années et de plus, ses bêtes étaient très dociles. Les membres de sa famille et ses amis appelèrent également le bureau du procureur de Mineral County. Jusqu'à présent, aucune preuve n'étayait leurs soupçons. L'avocat Sean Donovan consulta les agents du bureau du shérif. Ensemble, ils décidèrent de procéder à une autopsie afin de mettre un terme à ces rumeurs.
Nous savions que pour faire cesser les inquiétudes des amis et voisins, nous devions le faire. Mais nous n'en attendions rien de concluant.
La dépouille de la victime fut envoyée au laboratoire judiciaire de l'État, à Missoula, où le médecin légiste Gary Dell fut chargé de déterminer la cause de la mort de Nanette Hansen.
En général, lorsque nous avons affaire à des accidents impliquant des chevaux, la mort est causée par des fractures du crâne, des fractures du cou, à moins que l'animal n'ait roulé sur la victime. Dans ce cas-ci, il n'y avait aucun signe physique de ce genre de blessure mortelle. Il s'agissait plutôt d'égratignures et d'ecchymoses.
Il n'y avait aucune fracture du crâne. La moelle épinière de la victime était intacte. Il n'y avait pas eu non plus de saignements abondants. Les blessures étaient mineures. Il y avait une série d'égratignures sur la tête de la victime et une blessure d'environ 4 cm sur sa tempe gauche. Le médecin rasa les cheveux par-dessus la blessure et remarqua une marque inusitée sur le crâne. Il ne parvint pas à identifier ce qu'il avait causé. Aucune de ces blessures ne correspondait à celle que l'on retrouve lors de ce type de décès. En effectuant l'examen interne, il remarqua la présence de boue et de débris dans les poumons de la victime. Visiblement, elle n'était pas morte piétinée, mais plutôt par asphyxie.
Il était fort possible que quelqu'un lui ait maintenu le visage dans la boue en lui retenant les avant-bras et les mains et en appliquant une pression contre sa nuque. On lui avait littéralement collé le visage dans la boue.
Ce qui avait d'abord ressemblé à un accident prenait tout à coup des allures d'homicide. Le mari de la victime, Chris Hansen, fut conduit au poste pour y subir un interrogatoire. La police espérait qu'il les aiderait à découvrir qui avait pu en vouloir à la vie de sa femme. Les blessures et les ecchymoses sur le corps de Nanette indiquaient qu'elle s'était débattue avant de mourir. On demanda à Chris de retirer sa chemise afin de vérifier s'il avait subi des blessures. Son torse était couvert d'égratignures qui pouvaient avoir été causées par des ongles. Lorsqu'on lui demanda des explications, Chris déclara qu'il avait fait une chute dans la maison. En raison de sa maladie et du fait qu'il était devenu quasi aveugle, il lui aurait été impossible de maîtriser sa femme. Hansen était bien atteint de sclérose en plaques, mais il semblait forcer la note quand il parlait de ses symptômes.
Par la suite, nous avons appris au cours de l'enquête qu'il arrivait à lire les dés, et que debout près d'une table de billard, il distinguait sans peine les numéros sur les boules. Il avait également obtenu son permis de chasse au gros gibier en 1994.
Bien qu'il eût été trop faible pour travailler, les enquêteurs étaient convaincus qu'il était assez vigoureux pour battre une femme. Les amis de Nanette et ses collègues de travail avaient déclaré l'avoir vu à maintes reprises avec un œil au beurre noir ou d'autres blessures. La relation au sein du couple s'était envenimée depuis que le fils de Chris, Scott Abbey, était revenu au village. Le jeune homme de 31 ans n'avait pas revu son père depuis l'enfance. Environ un an avant la mort de Nanette, il était venu à la maison et avait décidé de rester. Il avait loué une roulotte qu'il avait installée à quelques minutes de la maison et entrepris de construire un chalet sur le terrain. Pour le père et le fils, c'était d'heureuses retrouvailles. Les détectives fouillèrent le passé de Abbé. Une de ses collègues de travail déclara à la police que Abbé n'hésitait pas à clamer bien fort sa haine envers sa belle-mère. Il s'était même vanté qu'il lui serait facile de mettre en scène une mort accidentelle en assommant Nanette à l'aide d'un sabot cloué sur un morceau de bois. Il s'était juré de faire tout ce qui était en son pouvoir pour l'empêcher d'obtenir l'héritage que devait lui léguer son père. Abbé semblait bien avoir obtenu ce qu'il voulait. Les détectives découvrirent également que quelques semaines avant la mort de Nanette, Abbé avait fait des pressions auprès de son père pour qu'il sépare ses avoirs financiers de ceux de sa femme. Hansen avait obtempéré. Il avait annulé leur carte de crédit conjointe et ouvert un compte bancaire à son nom seulement. Cette information ne justifiait pas à elle seule une arrestation, mais elle permettait au moins au bureau du shérif d'obtenir un mandat de perquisition de la roulotte et du véhicule de Abbé. Les agents espéraient retrouver les armes qui avaient causé les blessures de la victime à la tête. Dans la roulotte, ils trouvèrent une paire de bottes. Le motif sur les semelles leur était déjà familier. Dans sa voiture, ils firent une autre découverte, une matraque de fortune. Il s'agissait en fait d'une pochette en cuir remplie d'objets de métal. Les éléments réquisitionnés furent envoyés au laboratoire judiciaire du Montana. Pour accuser le père et le fils du meurtre de Nanette, il fallait plus qu'une simple opinion. On devait établir un lien direct et incontestable entre les objets recueillis et les blessures de la victime. C'était à l'expert en criminalistique Debbie Hewitt qu'il revenait maintenant d'étayer la preuve.
C'est exactement comme assembler un puzzle. On doit prendre chaque morceau et essayer de trouver à quel endroit il va. Lorsqu'on met le dernier morceau en place, on dispose d'une image complète.
Hewitt commença d'abord par l'analyse des bottes. Elle prit l'empreinte des semelles en les pressant sur un tampon d'encre, puis sur du papier blanc. Les empreintes furent ensuite copiées sur des feuilles d'acétate transparentes. Ainsi, elles pourraient les superposer aux photos des blessures et déterminer si elles avaient été causées par ces bottes. Le motif des semelles de Abbé correspondait exactement à la blessure sur le crâne de Nanette. Hewitt répéta la procédure avec la matraque de fortune. Elle pressa l'arme sur un tampon d'encre, puis sur une feuille de papier et selon plusieurs angles différents. Elle compara ensuite le résultat à la blessure sur la tempe de la victime. Le dernier morceau du puzzle venait d'être mis en place. La matraque correspondait parfaitement à la blessure à la tête de la victime. Le père et le fils avaient comploté pour se débarrasser de Nanette Hansen. Heureusement, leur crime n'était pas passé inaperçu. Le 2 février 1996, Chris Hansen et Scott Abbey furent arrêtés. Le procureur croit que Abbey a d'abord assommé Nanette à l'aide de la matraque, puis qu'il l'a rouée de coups dans la boue afin que cela ressemble à un accident. Pendant que Hansen tenait la victime, son fils aurait placé son pied sur sa tête pour lui maintenir le visage dans la boue jusqu'à ce qu'elle cesse de respirer. Si les amis de Nanette n'avaient pas insisté pour que le dossier ne soit pas fermé trop rapidement, cet acte brutal n'aurait sans doute jamais été puni.
Si le médecin légiste n'avait pas pratiqué l'autopsie, nous n'aurions jamais vu ses blessures et l'on aurait cru que la mort avait été accidentelle.
Scott Abbey et Chris Hansen furent accusés d'homicide et condamnés à 60 ans de prison. Lorsque les détectives sont en présence d'un meurtre déguisé, ils doivent trouver des moyens innovateurs pour déjouer la supercherie.